Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va nous décrire les changements apportés par la Révolution dans la société saint-antoninoise. Quelle musique avez-vous choisie pour illustrer cette émission?
Ce sera un concerto de Mozart. Nous voici en 1790. Dans un an, Mozart va mourir. Celui dont Wagner disait: Le plus prodigieux génie l'a élevé au-dessus de tous les maîtres, dans tous les arts et dans tous les temps. Fin de citation. Celui qui fait oublier sa science en gommant toute trace d'effort et dont la musique n'est qu'un libre chant. La page d'histoire qui sera présentée aujourd'hui est très sérieuse, puisqu'il s'agit surtout d'administration. Alors, j'ai pensé à un instrument de musique très sérieux, le basson, le grave basson, le plus grave des bois de l'orchestre, réduit en général à un rôle obscur. Mais le basson, ici, devient vedette, soliste, et il s'en donne à cœur joie. Animé par l'esprit de Mozart, par sa fantaisie, sa malice et sa tendresse, le lourd basson se sent pousser des ailes. Nous écouterons donc le concerto pour basson et orchestre en si bémol majeur, des extraits du rondo final et de l'andante.
Monsieur Julien, nous avons vu la semaine dernière qu'il faudra attendre la fin de l'année 1789 pour voir le premier acte révolutionnaire à Saint-Antonin. À Paris, la révolution avait commencé beaucoup plus tôt.
La révolution avait commencé beaucoup plus tôt. Elle avait été officiellement, si on peut dire, commencé le 20 juin 1789, lorsque les députés du tiers-État, par leur serment du jeu de paume, se sont constitués en assemblée nationale constituante. Par là même, ils ont décidé la transformation de l'ordre politique, administratif et social existant, et ils vont donner à la France, cette assemblée nationale plutôt, va donner à la France les structures politiques et administratives et sociales qui, pour l'essentiel, sont encore les nôtres aujourd'hui. Les innombrables lois et décrets pris en 2 ans et demi par cette Assemblée nationale auront leurs répercussions dans la vie locale. Et l'histoire de Saint-Antonin, de ce moment-là, n'est que le reflet de la vie nationale.
On a souvent l'impression que c'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qui a déclenché le mouvement révolutionnaire.
Oui, parce qu'on simplifie l'histoire, bien entendu, c'est une date tellement importante. Mais enfin, la véritable révolution, c'est le serment du jeu de paume,
Oui,
ça c'est évident.
la révolution a donc commencé beaucoup plus tôt que le 14 juillet.
Plus tôt, oui. L'une de ces réformes dont je parlais est la création des départements, dont l'Assemblée commence l'étude le 3 novembre 1789. C'est le 8 décembre suivant que la question est évoqué au conseil de ville par le maire Berry, qui, dit-il, a été informé que nos seigneurs de l'Assemblée nationale s'occupent en ce moment de la division du royaume en départements, qui seront composés de 9 districts, chaque district étant lui-même divisé en 9 cantons. Nous ignorons encore à ce moment-là, à Saint-Antonin, à quel département nous allons appartenir, puisque deux projets s'affrontent à l'Assemblée. Celui du député Touré, qui propose tout naïvement une division géométrique du territoire en parties égales par des rectangles, des trapèzes, un peu ce qu'il y a en Amérique, vous voyez? Et il y a un projet plus réaliste, me semble-t-il, et celui, c'est celui qui sera adopté, présenté par Mirabeau, qui, tenant compte des traditions, des usages, de l'histoire enfin, superposera ou essaiera de superposer les limites des départements créés à celles des anciennes divisions administratives anciennes, provinces, sénéchaussée, ou élection, c'est-à-dire parti de province. Le souci des magistrats saint-antoninois, assez sages quand même pour admettre que notre ville ne peut pas être, ne peut pas devenir chef-lieu de département, ce souci donc est d'obtenir son érection en chef-lieu de district, au moins. Et c'est l'objet de ce conseil de ville du 8 décembre dont je viens de parler. On sait bien que la concurrence va être vive. Alors il est décidé d'envoyer une pétition au président de l'Assemblée nationale et aux députés Mirabeau et Rabault-Saint-Étienne qui sont membres de la commission de division.
Oui, pour Mirabeau, on comprend, puisque vous nous avez dit qu'il était l'auteur d'un projet de division. Mais qui était Rabault-Saint-Étienne?
Rabault-Saint-Étienne était un député de ce qui est aujourd'hui le Gard, député de Nîmes, protestant, pasteur protestant même, et qui était un des membres influents de cette commission de division administrative. Il n'était pas que eux deux, n'est-ce pas? Mais on avait su que c'était eux, au fond, qui prenaient la parole le plus souvent et de l'opinion desquels dépendrait la division administrative. Alors on leur adresse bien sûr une supplique et l'on détaille dans cette supplique, on fait un dossier où l'on détaille les titres que notre ville a à cette promotion de chef-lieu de district. Alors premièrement, et ça c'est indiqué ainsi sur cette longue supplique, c'est numéroté. Primo, on parle de sa situation aux confins de trois provinces, ce que tout le monde sait, celle du Languedoc, du Quercy et du Rouergue. Et on considère que c'est un argument majeur, puisqu'on le place en premier. Secondo, sa grande population, et on le souligne même ça, qui compte au-delà de 4000 habitants dans son enceinte, et en outre plus de 6000 dans sa banlieue et juridiction. Disons tout de suite que on force les choses, comme ça se fait toujours, parce qu'à ce moment-là, quand même, 10 000 habitants dans notre commune, c'est un peu fort. Hein? Disons qu'au total, il pouvait y en avoir 6 à 7 000, mais pas 10 000. Troisième argument. On précise que notre commune contribue aux impositions royales pour la somme considérable de 68 456 livres, 12 sous, 8 deniers. Non compris là-dedans les droits du contrôle royal qui se portent à 6 000 livres, les droits de la régie générale qui se portent à 24 000. Régie qui a été transféré quelques années auparavant de Villefranche à Saint-Antonin comme lieu plus commode que Villefranche. Enfin, les revenus de la chambre à sel, qui se sont élevés annuellement à 24 000 livres, et ensuite les revenus des octrois du tabac et de la marque de l'argenterie. Ce sont des détails intéressants, ça. Hein? On s'explique pourquoi il y a des orfèvres à Saint-Antonin. Quatrième argument, quarto. Elle est une des plus anciennes de la monarchie. À ça, moi, j'aurais mis ce titre en premier lieu et pas au quarto. La seconde du bailliage de Villefranche. Et on ajoute que rivale de celle-ci de Villefranche, elle paie à peu près les mêmes charges, a eu autant de députés qu'elle à l'Assemblée pour l'élection des députés aux États généraux. Cinquièmement, on précise que notre ville est éloignée de 20 lieues de Rodez, capitale du Rouergue, de près de 10 lieues de Cahors, capitale du Quercy, et enfin de 8 à 9 lieues de Villefranche ou de Montauban. J'ouvre une parenthèse ici pour préciser aux auditeurs ce détail. La lieue considérée ici n'est pas la lieue de poste que tout le monde dit C, équivalente à 4 km. Si vous faites les conversions, vous verrez que la lieue dont il est question ici à Saint-Antonin est une lieue de 6 km. Et parce que je veux faire le pédant, le mot lieue vient d'un mot gaulois et se trouve encore en occitan, le mot gaulois qui est leuca et qui se trouve en occitan dans l'ego, qui existe toujours. Enfin, on conclut ce mémoire en disant que, je cite bien le rapport. « Si malheureusement pour elle, la ville de Saint-Antonin n'obtenait pas l'effet de sa demande, elle serait tout à coup ruinée de fond en comble. » Fermez le banc. On ne peut pas dire pire que ça. Hein? Et alors, pour bien montrer qu'on est résolu, on fait suivre cette supplique, ce rapport, de toutes les signatures des membres présents. On en compte 108 signatures. Il y a du monde. Mirabeau et Rabault-Saint-Étienne accuseront réception de la supplique dans une réponse que l'on considère fort aimable. Mais ils ne font qu'accuser réception. Le président de l'Assemblée, lui, ne répondra pas. Le 20 décembre, on appuie la demande de la ville de Montauban d'être choisie comme chef-lieu d'un département. Et on renouvelle notre vœu que, dans ce cas, Saint-Antonin soit érigé en district de ce nouveau département et, à défaut, de celui de Cahors, si Montauban n'obtient pas satisfaction. Il faut dire qu'il n'y avait pas que nous qui étions sur les rangs. Montauban et Cahors se livrent aussi une âpre concurrence pour savoir qui sera chef-lieu de département. Et nous savons que c'est finalement Cahors qui le sera. Mais surtout, surtout, on ne voudrait pas avoir comme chef-lieu de département la ville de Rodez. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut 2 jours pour y aller. Et si, par malheur pour nous, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas, nous étions rattachés au département du Rouergue, on ne sait pas encore comment il s'appellera le département, on supplie au moins que le chef-lieu de ce département soit fixé par alternance, moitié de l'année à Rodez, et moitié de l'année à Villefranche, pour qu'on ait quand même moins de chemin à faire. On renouvellera la même supplique le 1er février. Envoyer des lettres, des rapports, des suppliques, n'était pas à ce moment-là pas plus qu'aujourd'hui le meilleur moyen pour obtenir satisfaction. Vous savez bien que si l'on veut obtenir quelque chose, il faut agir physiquement auprès des responsables. Et notre ville n'avait à ce moment-là personne, aucun correspondant susceptible d'entrer en relation avec les puissants de l'Assemblée nationale. Et nous n'avions surtout pas de députés à l'Assemblée nationale. Alors, nos suppliques, nos rapports resteront lettres mortes. Le 26 février 90, toute incertitude est levée. Tout espoir est maintenant vain. Nous ferons partie du département de l'Aveyron, calqué sur la province du Rouergue, avec Rodez comme chef-lieu, et nous n'aurons pas même la consolation d'être chef-lieu de district. D'autres plus influents ou plus habiles que nous ont réussi, d'autres qui ne sont quelquefois que de simples villages. Parmi les 9 districts, on relève Rodez, c'est normal, Villefranche, c'est normal, Millau, c'est normal, ce sont les 3 plus grandes villes du Rouergue. Puis vient Sainte-Afrique, c'est encore normal. Sauveterre, je vous demande un peu, Aubin, Sévérac, Saint-Geniès et Mur-de-Barrès, c'est le comble. Pour qui connaît bien la carte, il est manifeste que la répartition ainsi faite n'est pas équitable géographiquement. Elle ne l'était pas non plus économiquement. Seulement voilà, Mur-de-Barrès, qui n'est qu'un tout petit village, avait un député à l'Assemblée constituante.
Les Saint-Antoninois de l'époque devaient être complètement désespérés.
Oui.
Comment aurait-il pu se douter que moins de 200 ans plus tard, certains agriculteurs de notre région demanderaient avec insistance leur attachement au département de l'Aveyron.
Ah ben oui, mais là c'est pour d'autres motifs et les choses ont bien évolué. Je sais effectivement que les agriculteurs de notre section, ici de notre canton, souhaiteraient faire partie du département de l'Aveyron parce qu'ils seraient alors classés comme agriculteurs des zones de montagne. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous nous satisferions sans doute même ceux d'entre nous qui ne sommes pas agriculteurs d'appartenir au département de l'Aveyron, qui sans doute nous négligerait moins que ne le fait le département du Tarn-et-Garonne. Mais voilà, nous ne pouvons pas revenir maintenant au département de l'Aveyron, à moins qu'on le demande. Faisons un mouvement populaire pour ça. Eh bien, Saint-Antonin, après ça, ne sera donc que le chef-lieu de l'un des 9 cantons du district de Villefranche. Un tout petit canton, d'ailleurs, pas du tout celui d'aujourd'hui, qui regroupait seulement les municipalités, on ne disait pas encore communes tout de suite, les municipalités de Fénérolles, Fénérolles qui se prononçait Fénairols et qui par conséquent devait s'écrire avec un A et pas un E, Carandier qui était municipalité, Selgues, Ginals et Saint-Igne, en plus de notre communauté à nous. Voilà les communes qui faisaient partie du canton de Saint-Antonin. Imaginez un peu comment il était fait ce canton. Autre canton, alors, dans ce qui est aujourd'hui le canton de Saint-Antonin, Parisot était canton et Varennes était aussi canton. Voilà, il y avait 3 cantons au total dans le canton actuel de Saint-Antonin. De ce fait, de n'être pas district, notre ville perdra son bureau du greffe, celui des gabelles, celui de la régie générale, sa justice royale avec son juge, ses juges, procureurs, greffiers et avocats. Elle aura quand même 2 juges de paix. L'un pour la ville seulement, l'autre pour le canton externe. Un juge de paix par canton, mais comme notre ville était quand même importante, on acceptera que nous ayons un juge de paix rien que pour la ville. Décidément, le déclin continue inexorablement. Et pourtant, nous sommes disciplinés ici, loyaux et obéissants. Et les décrets de l'Assemblée nationale sont exécutés sans murmure, du moins apparent à travers les registres, sinon avec exactitude. Ça, les officiers municipaux de Saint-Antonin se sont toujours distingués à cette époque-là par la lenteur qu'ils ont mise à exécuter. Ils n'ont jamais refusé, mais alors ça traîne, ça traîne. On laisse traîner les choses, c'est vrai. Que ce soit pour la mise en œuvre du rôle des nouvelles contributions, ça on le comprend, on n'est pas tellement disposé à payer des impôts, hein. Encore en 1793, on n'aura pas établi le rôle de la contribution de 1790. Il faut le faire. Hein. On dit qu'on ne peut pas, que la commune est trop grande et qu'on n'y arrive pas. Que ce soit pour cela, donc, ou pour l'application de la constitution civile du clergé. Le 15 février, enfin, voilà, on vient de diviser la France en départements, chaque département en district, les districts en cantons, les cantons en municipalités ou communes, si vous voulez, et maintenant, il faut mettre en place les nouvelles municipalités. C'est le 15 février que cela se fait, en exécution des décisions de l'Assemblée nationale. Cette fois, ce sera une véritable élection. Seulement pas au suffrage universel comme nous connaissons. Ce sera le suffrage restreint. Pour être électeur, il faut payer une imposition directe égale à 3 journées de travail. Et pour cela, on demande à chaque municipalité de fixer le prix de la journée de travail. Ici, à Saint-Antonin, elle est fixée à 20 sous. Donc, pour être électeur, il faut payer 3 livres d'imposition. C'est le conseil de ville qui a pris cette décision le 5 février. Il y a ainsi des citoyens actifs, on les appelle actifs, qui votent, et des citoyens passifs qui n'ont pas ce droit. Et ils sont nombreux ici, ce sont les journaliers, les brassiers, et aussi, chose impensable, tous ceux qui sont domestiques, au service de quelqu'un, même s'ils paient des contributions de 3 journées, ils ne sont pas électeurs parce qu'on a décidé qu'ils n'étaient pas libres, parce qu'ils sont domestiques. Compte tenu du nombre d'électeurs inscrits, le scrutin se déroule en 2 endroits. On constitue 2 assemblées électorales, une dans l'église des Capucins, là où se trouve actuellement le garage Renault. L'autre se déroulera dans l'église paroissiale. 300 électeurs environ participent au scrutin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait que 300 d'inscrits. Sous la surveillance d'une 30aine de soldats de la garde nationale requis pour l'occasion pour éviter le désordre. Ces soldats n'étaient pas citoyens actifs. Ils avaient le droit d'être soldats, mais pas de voter.
Oui, vous nous dites un peu qui était citoyen actif et qui était citoyen passif.
Eh bien, les citoyens actifs se recrutaient essentiellement chez tous les bourgeois, les nobles. On avait décidé que les membres des communautés religieuses seraient citoyens actifs. Alors que c'est scandaleux, c'était des privilégiés, ils n'avaient jamais payé d'impôts. Hein. Mais l'Assemblée municipale de Saint-Antonin a décidé que tous les prêtres voteraient, même les membres des communautés religieuses. Bon, ensuite tous les marchands, tous les artisans tenant boutique. Et en grande partie, c'est les gens de la campagne qui étaient propriétaires de leurs biens. Ils arrivaient à payer une contribution de 3 journées de travail. Donc, cela devait représenter dans la commune une part importante de la population. Seulement, comme on le voit, il n'y a eu que 300 électeurs qui ont voté, 300 électeurs actifs. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'il n'y avait que les hommes qui votaient, n'est-ce pas ? Pas les femmes. Le droit de vote n'était pas encore accordé aux femmes. Et il faut vous considérer aussi que peu de gens étant entraînés à la vie municipale, à la vie démocratique, beaucoup s'étaient abstenus de venir voter. Quant aux citoyens passifs, je l'ai dit, ce sont tous les autres. Alors, citoyens actifs, les deux mots sont beaux. Hein.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'électeurs potentiels, c'est-à-dire de citoyens actifs, finalement, qu'il pouvait y avoir à Saint-Antonin?
Oui, sans tenir compte de cette population exagérée dont on a parlé tout à l'heure, de 10 000 habitants, on peut évaluer la population de la commune à 6 000 habitants. Sur ces 6 000 habitants, considérons qu'il y a la moitié d'hommes, n'est-ce pas? 3 000, masculins plutôt. Sur ces 3 000, il y a au minimum un tiers de gens qui n'ont pas 21 ans, si ce n'est plus, peut-être même 50%. Hein. Mais enfin, j'en enlève 1 000, il me reste 2 000 personnes du sexe masculin susceptibles de voter. Et sur ces 2 000, compte tenu du nombre de pauvres considérable, j'avais dit à une émission, 800, n'est-ce pas ? Nous pouvons considérer qu'il y avait au moins 1 200 citoyens passifs qui ne pouvaient pas voter parce qu'ils étaient indigents ou qui ne payaient pas les 3 journées de travail. Donc environ 800 électeurs à Saint-Antonin. Mais je n'ai aucun document qui me permette de donner ce chiffre. Il n'y a pas de listes électorales établies encore à ce moment-là, ou du moins, peut-être, elles ont disparu.
Vous allez nous donner le résultat de ces élections,
oui.
Mais est-ce qu'on sait comment elles se sont passées? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui était candidat?
Bon, on n'annonce pas de candidat. C'est en 1793 que l'on constituera, on procédera à des candidatures. Là, il n'y a pas de candidat apparemment, mais Les membres du conseil municipal ont décidé pour l'organisation de ces assemblées électorales de désigner deux d'entre eux, et en même temps le secrétaire greffier en fait partie, qui seront chargés de se rendre dans les salles ainsi désignées à telle heure le matin à 9 h du matin pour rassembler les gens qui appartiennent à ces sections. Hein? Il y avait deux sections de vote, je l'ai dit, une au Capucin qui groupait la moitié de la ville et puis toute la zone du Causse de Servanac, la vallée de la Bonnette où tu habites, et le Bosc. Et l'autre qui groupait tout ce qui était l'autre moitié de la ville et la région de ce qu'on appelait l'Albigeois, Sainte-Sabine, Brousse, etc. Bon, alors là se rendent deux commissaires envoyés par le conseil municipal qui exposent, premièrement, le décret de l'Assemblée nationale qui fixe les conditions de l'élection. Deuxièmement, qui doivent certainement influencer les électeurs en désignant eux-mêmes les personnalités qui seraient susceptibles d'être élues. En tout cas, il n'y a pas de candidature officielle avérée. Voyez, c'est en très peu de jours que ces choses-là se font. Il n'y a pas campagne électorale, quoi. Mais il est certain que les gens influents vont être les premiers mis en évidence, et d'ailleurs l'élection le prouve. D'abord, quelque chose de particulier. La première élection, le premier scrutin auquel on procède, c'est celui qui entraîne l'élection du maire. C'était beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. Le personnage principal de la commune, c'était le premier élu par tous les citoyens capables de voter. Hein. N'oublions pas la restriction faite ci-dessus. Et alors on élit le maire qui semble avoir été élu sans difficulté, mais nous ne savons pas du tout. On ne nous rend pas compte du nombre de voix qu'il a obtenu, mais il est élu comme ça, on nous dit, c'est Jean-François Pommiès. Il revient, vous voyez, nous le connaissions, c'était l'ancien procureur du roi, il est avocat en parlement, où il était, puisque les parlements sont supprimés, et nous savons qu'il est propriétaire d'une papeterie depuis longtemps déjà. Après l'élection du maire, on procède à l'élection de 8 officiers municipaux, 8 conseillers municipaux, mais on les appelait officiers municipaux. Et voici qui ils sont. Jacques Pénavert, bourgeois de Vésy, Louis Pagès, marchand de Saint-Antonin, Jean-Pierre Marty, laboureur de Saint-Antonin, Bernard Sarre-Mejeanne, bourgeois de Saint-Antonin, Paul Jourde, laboureur de Saint-Antonin, Jean-Jacques Poux, orfèvre de Saint-Antonin, Jean Besse, ménager, ménager, c'est un petit cultivateur, on en avait parlé de ça aussi, hein, Saint-Antonin, et enfin Jean Taillefer, jardinier de Saint-Antonin. Voilà pour les 8 officiers municipaux. Vous avez bien entendu, il n'y a plus beaucoup d'avocats, mais il reste des bourgeois, des marchands. Hein. Ensuite, le conseil était complété par la désignation, l'élection de 18 notables qui se joignaient aux officiers municipaux et aux maires pour constituer le conseil général de la commune. En tête de ces 18 notables, celui qui a obtenu le plus de voix, c'est Georges Lassosse, ancien chanoine génovéfain, prieur claustral du chapitre, curé de la paroisse. On note qu'aucun des anciens magistrats, des anciens consuls n'a été élu et qu'une tendance à une représentation plus élargie se dessine. Cependant, Ricard, qui a été maire précédemment, est élu comme procureur de la commune, mais il semble, lui, favorable à la révolution.
Thank you.
Jean-François Pommiès commence alors sa carrière politique. Le 1er août 1790 suivant, il donne sa démission de maire, cette fonction étant incompatible avec celle de membre du directoire exécutif du département de l'Aveyron, où il vient d'être élu. Les départements étaient administrés aussi, non pas comme aujourd'hui par un préfet et par un conseil général, mais par un directoire élu entièrement par les électeurs, bien sûr, toujours au suffrage restreint. Et Pommiès est élu. Nous avons quand même la chance d'avoir un représentant, au moins au chef-lieu de département. L'année suivante, en 1791, il sera élu député à l'Assemblée législative, qui se réunira le 1er octobre. C'est notre premier grand homme, vous voyez. Mais il ne sera que l'un des 400 avocats de cette Assemblée. Cette Assemblée législative comptait 400 avocats sur 745 députés. Beaucoup plus tard, il sera à nouveau nommé maire par le premier consul en 1800 et il le restera jusqu'en 1832. Il avait alors 82 ans. Avocat, issu d'une famille de riche bourgeoisie, il est le représentant type de cette élite du tiers-état qui, après avoir déclenché la secousse révolutionnaire, s'emploiera à en limiter les effets. Mais il ne profitera pas, lui, comme tant d'autres, de la vente des biens du clergé.
Oui, je pense que cette vente des biens du clergé serait intéressante à raconter, mais je crois que ce sera l'objet
de la prochaine émission, voilà, oui, ouais. Si vous voulez. Dès son installation, la nouvelle municipalité unanime adopte cette déclaration du maire Pommiès qui traduit bien, malgré son style emphatique, on pourrait dire ampoulé, une adhésion totale aux idées nouvelles, du moins dans la forme, je ne sais pas si c'était sincère. Elle est ainsi rédigée. Non, Seigneur, il s'agit des députés de l'Assemblée nationale. Le premier vœu de la nouvelle municipalité de la ville et communauté de Saint-Antonin, en exercice depuis hier, a été de témoigner à l'Assemblée nationale sa reconnaissance pour le bienfait inestimable dont elle vient de la faire jouir. Voilà la première pierre posée du grand et bel édifice qui va s'élever. Ô homme courageux, c'est à vous à qui nous devons notre liberté. Vous avez terrassé le despotisme qui ne reparaîtra jamais en France tant que vos lois subsisteront. Vos noms gravés dans nos cœurs seront les premiers mots que nous ferons bégayer à nos enfants avec celui de la liberté. Sans commentaire, n'est-ce pas? On le voit, notre commune, en dépit de nos déceptions, adhère aux mesures révolutionnaires de l'Assemblée, et notamment l'élite saint-antoninoise, les principaux habitants, comme on dit. C'est le moment où prend naissance ce sentiment nouveau qu'on appelle le patriotisme, le sentiment d'appartenir à la communauté nationale. C'est alors que commence l'utilisation courante dans les textes du mot « citoyen » et des termes « patriote » et « aristocrate ». Pour bien distinguer ceux qui adoptent le nouveau régime, ce sont les patriotes, des tenants obstinés du despotisme, ce sont les aristocrates.
Oui, il y avait peu de nobles à Saint-Antonin avant 1789.
Oui.
Par contre, le clergé y était nombreux et très influent.
Oui.
Comment acceptent-ils de perdre leur pouvoir à Saint-Antonin?
Très bien. Je pense qu'ils acceptent de perdre le pouvoir qu'ils avaient pour en trouver un autre. Et la preuve, c'est que parmi les notables qui sont élus, j'ai dit tout à l'heure que le premier notable élu, c'était le curé de la paroisse, Georges Lassosse, ancien prieur claustral du chapitre. On trouvera au total dans les 18 notables 4 prêtres, donc 2 chanoines, avec Lassosse compris, un grand capme, et ensuite, ce qu'on appelait un prébendé du chapitre, ma foi, ils sont assurés de se sortir de là. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont accepté les choses. Je ne vois pas d'autre raison. Et puis peut-être aussi, n'oublions pas que la sauce avait son nom précédé des fameux 3 points, je l'ai dit une autre fois. Ils ont peut-être aussi des idées avancées, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on est du clergé qu'on est un réactionnaire ou un aristocrate. Hein. Enfin, en tout cas, ce qu'il me semble à moi, c'est que le nouveau régime ainsi institué semble unanimement adopté, y compris par une personnalité éminente de Saint-Antonin, que sa naissance, sa classe sociale auraient dû ranger parmi les aristocrates. C'est le comte Claude-Marie de Lastic-Saint-Jal, élu colonel de la garde nationale. Il manifestera très clairement son adhésion au nouveau régime qui a terrassé le despotisme, entre guillemets, et sa volonté de maintenir la concorde entre tous les citoyens. Nous avons vu son serment la dernière fois. À cet effet, la garde nationale de Saint-Antonin, dès le mois de mars 1790, adhère à la proposition faite par la garde nationale de Millau de constituer une fédération des gardes nationales de toute la province du Rouergue, ancien Rouergue. Dans les semaines qui suivent, et à notre initiative, c'est-à-dire de Claude-Marie de Lastic-Saint-Jalles, cette fédération s'étend, et en mai 1790, elle associe les gardes nationales de toutes les villes voisines. À notre initiative, je le rappelle, Villefranche, Varennes, Verfeil, Caylus, Sept-Fonds, Caussade, Nérepelisse et même Montauban. Cette fédération des gardes nationales de notre région, à la fois du Rouergue et du Bas-Quercy, témoignait de notre part, ou du moins des responsables de la garde nationale de Saint-Antonin, d'un sentiment élevé de patriotisme, c'est incontestable, et d'une volonté d'union. Cette volonté d'union n'était pas simplement que pour banqueter, mais elle était aussi pour assurer la concorde et surtout l'ordre. L'ordre notamment perturbé à Montauban où le 10 mai 1790, un incident grave, le jour de la fête des rogations, met aux prises catholiques et protestants. Les protestants ont 5 morts et une trentaine sont arrêtés par la municipalité royaliste et catholique, bien sûr, aristocrate si l'on veut. Aussitôt, quand on apprend la nouvelle qui nous est envoyée par les officiers municipaux de Caussade, c'est une grande émotion ici, surtout quand on apprend quelques jours après qu'un détachement de 1600 hommes de la garde nationale de Bordeaux est arrivé à Moissac, prêt à mettre à la raison les aristocrates montalbanais. L'état-major de notre garde nationale propose alors sa médiation pour ramener la paix et éviter l'investissement de Montauban par les Bordelais. Des députés sont envoyés à Albias, 4, pour rencontrer des émissaires de Montauban, s'entendre avec eux sur les moyens de leur porter secours. Et 2 sont envoyés à Moissac pour apaiser les esprits des Bordelais et rétablir, si possible, la concorde. On y parviendra. Toujours dans le même esprit d'union et de concorde, avec le souci de maintenir l'ordre contre les tentatives des perturbateurs, rappelez-vous. 60 gardes nationaux de Saint-Antonin participent le 1er juillet 1790 à la Fédération des gardes nationaux à Villefranche. 4 d'entre eux participent le 5 juillet à la Fédération des gardes nationaux à Toulouse et enfin 10 participeront à cet immense et grandiose rassemblement patriotique qui, le 14 juillet 1790, jour anniversaire de la prise de la Bastille, rassemblera au Champ de Mars, à Paris, sous les drapeaux tricolores, les milliers de délégués des gardes nationales de la France entière, faisant entrer ainsi dans l'histoire le troisième mot de la devise républicaine, fraternité.